cours de philosophie première par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeaudard le 29 novembre 93.
C'est donc l'induction de la substance. Nous allons continuer. Je voudrais que tous vous puissiez faire l'induction de la substance. Je peux vous montrer comment, mais c'est vous qui devez le faire. On peut bien vous donner l'intelligible, mais l'intelligence, c'est difficile. Alors on voit les voies d'accès. Alors je réponds d'abord aux questions pour écarter les obstacles et purifier alors, le Jean-Baptiste de la substance. Écarter les obstacles. Pourquoi peut-on transposer l'analyse de l'œuvre d'art au niveau métaphysique? C'est que l'intelligence humaine, étant conditionnée par les sens, atteint d'abord ce qu'il y est le plus connaturel à l'homme. Ce qui est le plus connaturel à l'homme, c'est l'œuvre d'art. Parce que ça provient d'un autre homme. Alors un autre homme est quand même plus proche du conditionnement, comprenez bien. Un autre homme est plus proche du conditionnement de mon intelligence que Dieu. Mais Dieu est plus proche de la finalité de mon intelligence que l'artiste. C'est pour ça que d'une certaine manière, Dieu est plus proche. Et d'une autre manière, d'une certaine manière, la nature, la réalité physique, ce que nous voyons, est plus proche de nous que l'œuvre d'art. Et d'une autre façon, l'œuvre d'art est plus proche de nous que la nature. Ça, nous pouvons tous comprendre ça. Quand on voit une exposition et quand on voit un beau paysage. Quand on voit un beau paysage ou un beau visage, on est en pleine naturalité. Et quand on voit une œuvre d'art, on est en pleine naturalité. Ce n'est pas la même pleine naturalité. L'œuvre d'art est en connaturalité avec notre conditionnement. Et la nature est en connaturalité avec notre finalité. Alors évidemment, dans des cultures comme la nôtre, où le point de vue psychologique l'emporte sur le point de vue philosophique, la nature est très loin. Et l'œuvre d'art est très proche. Le gosse est éduqué par la télévision aujourd'hui, pas par sa mère. Il passe beaucoup plus de temps face à la télévision que face à sa mère. Et c'est ça la catastrophe. Et au bout d'un certain temps, il n'y a plus aucun éveil naturel. Il n'y a plus qu'un éveil du conditionnement. Et la firme il n'y a que le conditionnement. La ville de Mexico. Il y a toujours ça comme exemple, parce que c'est tellement significatif que ça doit nous aider. Un jour par an, grâce à un vent particulier, les Mexicains peuvent voir que leur ville est entourée de volcans. Tout le reste de l'année, l'air est tellement pollué qu'on ne voit plus les volcans. Je ne les ai pas vus. On m'a dit qu'ils existaient, j'ai cru. Je ne sais pas. Mais j'ai vu la pollution de la ville. Terrible pollution. Alors au bout d'un certain temps, on ne voit plus que ça. C'est une image merveilleuse pour comprendre ce que c'est. Comment le démon arrive à nous endormir dans notre finalité. Et de considérer que le point de vue psychologique est beaucoup plus proche de nous que le point de vue philosophique. Parce que c'est c'est, voyez, faites le parallélisme entre œuvre d'art et votre intelligence, la nature et vous. Le point de vue psychologique, le point de vue philosophique. Ça nous aide à comprendre, ce sont des analogies qui nous aident à comprendre. C'est pas commun à comprendre. Alors, une fois que vous avez compris ça, vous comprenez que si c'était au niveau du conditionnement, ça n'irait pas. C'est au niveau de l'intelligence. L'intelligence, elle, est analogique. En ce sens que l'intelligence atteint la réalité à des niveaux différents. Et ce qu'elle atteint à tel niveau, elle peut transposer à un autre niveau. Puisque c'est la même réalité, c'est la même intelligence. L'œuvre d'art a ceci de tout à fait caractéristique pour nous. C'est que, étant donné sa connaturalité très profonde avec ce que nous sommes, l'œuvre d'art nous offre des analogies étonnantes. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans Aristote quand on lit, et que les modernes ne comprennent plus du tout. Un livre comme Robin sur Aristote, qui est calé, qui est intelligent, c'est un homme, fait le grief à Aristote en philosophie de la nature de se servir de l'art. Au nom de quoi? C'est comme si je faisais le grief à un physicien, à un biologiste de se servir d'un instrument. On a parfaitement le droit, le tout s'est indiqué. Je découvre ceci grâce à tel instrument. C'est ce qu'on oublie, voyez, dans la science moderne. On oublie de signaler, je saisis ces choses-là grâce à tel instrument. Le monde est vu, puisqu'il y a les lunettes grossissantes, ben vous savez, et des lunettes qui diminuent. Alors quand je regarde mes frères avec en myope, je vois plus leur péché, c'est merveilleux. Mais dès que je mets mes lunettes, oh, effrayant. Mais je l'indique, vision fraternelle en myope, vision fraternelle. Alors j'indique, vision fraternelle dans la lumière du Christ. Si on vit en chrétien, on se voit toujours dans la lumière du Christ. Alors un païen à côté dit, mais qu'est-ce que vous voyez? Ah oui, je vois beaucoup de choses que vous ne voyez pas. C'est très vrai. Donc, pour lui, pour le païen, c'est de l'imaginaire. Mais non, c'est pas de l'imaginaire, c'est du divin. Et comme il n'a aucune expérience du divin, c'est de l'imaginaire. C'est très, très... Il faut s'habituer à ça. On vit dans un monde d'une univocité effrayante. Alors on a une peine énorme à comprendre l'analogie de l'intelligence. L'intelligence saisit les choses à des niveaux différents. Mais alors il y a la connaissance pratique et la connaissance spéculative. C'est une distinction qui est très difficile à retrouver après Hegel. Ça c'est très vrai. C'est une distinction que les Grecs ont mis longtemps avant de découvrir. Et pour nous, il faut aussi beaucoup de temps avant de découvrir vraiment comment la connaissance humaine peut être pratique et comment la connaissance humaine peut être spéculative, c'est-à-dire contemplative. On recherche la vérité pour elle-même, au contraire, on recherche la vérité en vue de l'action. Alors ça, c'est évidemment toute la philosophie. En philosophie, je ne suis pas dans l'université. En mathématiques, je suis dans l'université. Alors, notre culture est mathématique. Une université qui n'est pas une pure université, hein, ça n'existe jamais, la pure université. Parce que le grand mathématicien comprend très bien l'analogie. Très très bien. Mais le petit mathématicien, voyez, le petit mathématicien a beaucoup de peine à comprendre l'analogie. Il est dans l'université. C'est très curieux et c'est ça qui est intéressant à voir. Le petit mathématicien s'incline vers la logique. Le grand mathématicien s'incline beaucoup plus vers l'aspect positif. l'évidence. Alors c'est dans le sens de l'acuité, mais l'acuité n'est pas la substance. Contrairement à ce que dit Tricon, traduction d'Aristote. Tricon a traduit Aristote dans le train. Et traduisant Aristote dans le train, le conditionnement du train n'a pas toujours été dépassé. Non, le conditionnement du train, c'est le devenir, vous comprenez bien. Elle n'a pas toujours été dépassée. Alors, il dit que l'acuité, c'est la substance. Or, Aristote dit juste l'inverse. Le mot crudité, touti eminai, est un mot inventé par Aristote. C'est un mot typiquement aristotélicien, qui reste dans la philosophie jusque Sartre. Avec toute la philologie. C'est très curieux. Je crois que c'est le mot qui a eu le plus d'efficacité. Et Aristote a inventé crudité entre forme et substance. C'est la forme face à l'intelligence. C'est l'intelligibilité essentielle de la réalité. Mais la substance se prend par rapport à l'être et pas par rapport à l'intelligence. Alors, je suis d'accord que on peut dire que les quatre déterminations suivantes sont les plus essentielles. Non, sont principales, je dirais. Pas essentielles, puisque quantité, qualité, relation sont accidentelles. Vous voyez bien, donc c'est pas essentiel, c'est accidentel. Mais on peut dire qu'elles sont très importantes. Et que les six autres prennent en fait des sens dans la relation. C'est-à-dire relation par rapport au mouvement. Mouvement et lieu. Relation par rapport à ce qui est autre. Passion et action. Relation par rapport au tout, situs et habitus. Vous voyez, ça c'est tout à fait de Hamelin. Hamelin dit ça. C'est intéressant, du reste, ça prouve que les grands esprits se rencontrent. Hamelin dit ça. Hamelin, c'est le néo-hégélien français. C'est très intéressant de voir ça. Le néo-hégélien français, donc, c'est un Hegel qui, pour nous, est relativement facile à comprendre. Il faut lire Hamelin, une fois dans sa vie. Alors, la substance disparaît, il n'y a plus qu'à relation. Et la relation joue par rapport aux différents prédicaments le rôle de la substance par rapport aux prédicaments d'Aristote. C'est ça qui est très intéressant et qui est curieux. Vous voyez. Donc vous faites l'enquête, parce que je l'ai faite, parce que j'étais bien obligé de la faire. Voir la naissance de la substance, quand la substance a commencé à pointer en philosophie. Je crois qu'elle a commencé à pointer avec Platon. Les présocratiques n'emploient pas le mot substance, mais le mot phusis, nature. Elle commence à naître avec Platon. Aristote la reprend pour lui donner une nouvelle signification. Saint Thomas la reprend. Et le néoplatonisme aussi. Et pratiquement, elle demeure jusqu'à Hamelin. Et les autres n'emploient plus le mot substance, mais le mot sujet. C'est très curieux de voir ça dans la philosophie, dans la phénoménologie. C'est le sujet. La personne, c'est le sujet. Et en scolastique décadente, le mot substance a été transformé par sujet. Parce qu'on a pris substance première, pierre, sujet de toutes les attributions. Vous voyez, c'est le primat de la logique qui fait qu'on confond substance, principe, selon la forme de ce qui est au sujet de toute attribution. Et alors, c'est grandeur, on pourrait faire un livre, n'est-ce pas, pour l'envie philosophique, grandeur et décadence de la substance. À quel moment elle naît, à quel moment elle disparaît. Et alors, dans la philosophie moderne, depuis Hegel, on peut dire que c'est la relation qui prend la place de la substance. Alors ça vous choses. Alors voyez, ceci veut dire que les autres, non, tous les prédicaments sont reliés directement au sujet et qualifient directement le sujet, Pierre. Donc la substance première, sauf la relation. C'est vrai que la relation a quelque chose de tout à fait particulier. C'est pour ça qu'Aristote dit que la relation, c'est le prédicament le plus débile. Parce que la relation ne se tient pas par elle-même. Elle a besoin d'une canne. Alors, on voit très bien, on est dans un état débile. On est relatif à la canne. La relation implique un fondement et deux termes. Et donc, elle ne qualifie pas directement. Tandis qu'au contraire, quand vous êtes en face du le mouvement, c'est passion et action. Hein. C'est ça qu'il faut mettre en premier lieu, passion et action. Bien, passion et action affectent directement le sujet. Le point de vue du temps et du lieu affecte aussi le sujet, mais pas à la mesure. C'est pas la relation, c'est la mesure. Et le situs, c'est par rapport au tout. Alors, le situs, on pourrait dire, le tout n'implique pas la relation, puisque d'une certaine manière, c'est la synthèse. Donc le tout, c'est le tout, c'est l'intégration de toutes les parties. Alors c'est plus par rapport à la partie que par rapport à la relation. De sorte que c'est intéressant de regarder ça de cette manière-là. Mais faisons attention qu'au fond, on remplace relation par substance. Alors, à ce propos-là, hein, je vous ai dit, il ne faut pas regarder les prédicaments uniquement au niveau logique ou au niveau de la parole. Aristote dit que l'être est dit de multiples manières. L'égétaï, pour la cause, il est dit de multiples manières. Mais quand Aristote dit l'égétaï pour la cause, ça ne veut pas dire qu'il s'arrête au langage. Ça, c'est les modernes qui s'arrêtent au langage. Ils se servent du langage pour toucher une détermination réelle. La passion est une détermination réelle de l'individu. Quand quelqu'un dit je souffre, je pâtis, vous n'allez pas dire oh c'est imaginatif. Non, c'est pas imaginatif, c'est réel. C'est quelquefois l'imagination qui joue un rôle très grand pour augmenter la passion. Ça c'est vrai. Ou l'action, c'est la même chose. Quelqu'un qui a une très grande imagination, quand il a tué une fourmi, ben, c'est un acte héroïque. Parce que la fourmi était une fourmi qui était capable de le tuer. Donc il s'est défendu comme David en face de Goliath. Tous les prédicaments indiquent des modes particulier de ce qui est. Donc c'est quelque chose de réel, c'est une sorte de propédeutique de la métaphysique. Voyez, on fait l'inventaire de l'homme au plan métaphysique. L'homme est l'être le plus complexe qui soit. Alors quelle est la complexité? Je dis, c'est la carte d'identité métaphysique de l'homme. Votre carte d'identité métaphysique. C'est très curieux. On a besoin, vous voyez, d'un fichier. Alors, au point de vue métaphysique, vous regardez toutes vos déterminations. Et vous voyez qu'en effet, toutes les déterminations sont dans les divrédicaments. Cherchez, vous n'en trouverez pas d'autres. Évidemment, il y a le fourre-tout. Le fourre-tout, c'est le dernier, c'est l'habitus. Et tout ce dont je peux me servir. manière dont ces choses sont usées par moi. La pipe. Juste la pipe de cette manière-là. Juste un outil de cette manière-là. Et cet outil transforme ma main. La main d'un menuisier n'est pas la même que la main d'un scribe. Ça se voit tout de suite. La main d'un maçon n'est pas la même que la main, oui, d'un secrétaire. C'est pas la même chose. Oui, alors, c'est là où on voit l'usus, l'usage. Et c'est l'habitus. L'habitus me transforme. L'habit me change. On peut avoir tous le même habit. Et quand ils sont entassés, uniquement le touchant, on découvre le sien. Si on a un toucher un peu fin, on découvre le sien. Comment ? Et qu'est-ce que vous touchez de plus ? Ils sont tous les mêmes. Ils ont tous le même habit. Ah oui, ils ont chacun leur habit. Alors, quand il est neuf, évidemment, alors vous n'avez pas usé. Mais quand vous l'avez bien usé, hein, il colle à votre peau. Alors, vous l'avez usé. Et du fait même que vous l'avez usé, il vous appartient. Il est relatif à vous. C'est très vrai que la relation est présente. Mais ce n'est pas la relation que je regarde, c'est l'habitus. Ouais. Donc, il faut bien comprendre cette voie d'accès. J'y reviendrai tout de suite. Cette voie d'accès par rapport à la substance. Dans la proposition, Pierre est homme, Pierre est sujet, relatif à homme. Et homme est relatif à Pierre. Et homme est attribut, relatif à Pierre. C'est ce que je disais, c'est relatif, mutuellement. Substance première, substance seconde. C'est de cette corrélation que nous pouvons induire la substance de l'être. Oui, on verra comment. Mais la première constatation, c'est ça. C'est que ni Pierre, ni homme, n'est premier absolument dans l'ordre de l'être. De la corrélation qui existe entre les deux, je peux dire qu'il n'est pas premier dans l'ordre de l'être. C'est ça qui est très curieux. Alors que substance indique quelque chose qui est premier dans l'ordre de l'être, ousia. Alors vous voyez, toute la difficulté, c'est qu'on a traduit ousia par substance. Parce que le mot substance, au point de vue étymologie, c'est tout à fait autre que ousia. Substance, en latin, c'est substare, ce qui se dit en dessous. Substare. Alors on disait le sujet. Tandis que ousia, c'était qu'en rigueur, enseigné à la Sorbonne, le point de vue de la substance, il a voulu inventer, traduire ousia autrement, en mettant entre parenthèses toute la grande tradition latine, et rejoint directement le grec au français. Alors il a traduit substance et danse. Je veux bien, c'est littéral, mais et danse n'est pas français. Il faudrait que Ricoeur soit à l'Académie française. Alors à ce moment-là, en tant que philosophe, il dirait, il y a un mot qui manque. Étance. Alors à partir de là, regardez l'étance. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, étance. Moi, ça ne me dit rien du tout, étance. C'est la traduction littérale de substance. Parce que substance est reliée à toi, être. Tandis que substance, le mot latin, n'est pas... ne dit rien de l'être. Il dit substare, soutenir, porter. Non, l'être, dans sa signification première, c'est pas ce qu'il porte. C'est pas, vous voyez, c'est ce qui est source, ce qui est premier dans la détermination. Alors ça, c'est intéressant uniquement au point de vue philologique. Par rapport à quelqu'un comme Heidegger, qui pense énormément au niveau de la parole et de l'étymologie. Je ne peux pas faire une philosophie à partir de l'étymologie. Ce serait une philosophie de la parole. Vous voyez, si je faisais une philosophie de la parole, je dirais, il y a une philosophie grecque, ousia, il y a une philosophie latine, substance. Et c'est vrai au point de vue du langage. Alors ça, c'est très intéressant. temps, ceux qui ont fait du latin traduit du Cicéron. Cicéron, c'est un rhéteur, un magnifique rhéteur, un rhéteur étonnant. Cicéron a eu très fort le soin de voir le passage du grec au latin. C'est très intéressant, vous voyez. Comme il y a des livres philosophiques du langage qu'il faut comprendre. Le Cratyle chez Platon, c'est le passage de la mythologie à la philosophie. Le passage, comme on dit en allemand, de mythos au logos. Le mythos, le mythe, le langage symbolique, et le logos, le langage philosophique. Alors Platon a été très influencé par ça. Et Platon montre dans le Cratyle le passage du mythos. Alors pour lui, substance, c'est ça vient de Hestia, langage mythique. Hestia, la déesse qui demeure. C'est très beau, hein? C'est très poétique. La substance, c'est la déesse qui demeure. Et c'est la permanence dans l'être. Et c'est vrai, c'est la permanence dans l'être. C'est ça, la substance. S'il n'y avait pas de substance, il n'y aurait pas de permanence dans l'être. Et c'est pour ça que Heidegger, lui, alors, dira, parce qu'il est très proche de Platon, bien qu'il ne l'aime pas, mais au fond, il est très proche de Platon, c'est notre Platon moderne, Heidegger. Eh bien, il dira, la substance est la présence. Un être substantiel est présent. Quand votre substance dort, vous n'êtes présent qu'accidentellement. Alors on passe devant vous à toute vitesse, comme fait le TGV par rapport aux vaches. À toute vitesse, ça recule. Pas de présence. C'est intéressant, vous voyez, de voir la philologie platonicienne avec le Cratyle. Le Cratyle est un livre qu'il faut lire quand on est fatigué. C'est très beau. Et puis le livre de Cicéron, passage du latin, du grec au latin. Et nous, passage du latin au français. Et quelquefois le grec qui est présent, mais pas toujours. Alors là, c'est une question de philologie. C'est très intéressant, mais le philosophe ne s'arrête pas à la philologie. Le philosophe s'intéresse au langage dont on se sert. Remonter à l'origine de tel ou tel mot, c'est intéressant pour Claudel. C'est poétique. Connaître. C'est naître avec. Très bien. Connaître, c'est naître avec. Et pour saint Thomas, l'intelligence intus legere. C'est ce que dit aujourd'hui certains philosophes. Intus legere. Qu'est-ce que c'est connaître? C'est lire de l'intérieur. Et ça, c'est beau, c'est lire de l'intérieur. Ne nous arrêtons pas au langage, essayons de comprendre ce que ça signifie pour nous. Pour nous. Puisque c'est la manière de communiquer. C'est le moyen de communication. Donc, dans la proposition, l'âme est esprit. Peut-on induire la vie? Il y a corrélation entre l'âme et l'esprit. Induction est donc possible. On verra ça. Je ne crois pas qu'on puisse induire de l'âme l'esprit. Je ne crois pas. Et la question est posée et on peut toujours essayer de résoudre. Et vous comprenez pourquoi? Parce que l'âme est substantielle. Je n'ai aucune expérience de la substance de l'esprit. Donc je ne peux pas saisir le principe esprit. C'est la tentation permanente de la substance pensante de Descartes. Descartes induit l'esprit à partir de l'âme. Il parle d'une substance pensante. Mais je ne peux pas lire l'esprit de l'âme. En Dieu, l'induction est-elle intelligible? Il n'y a pas d'induction. Dieu. Ainsi, dans la proposition « Dieu est amour », pourquoi est-il plus exact de dire « l'amour est en Dieu » ? Pourquoi c'est plus exact ? Et non, l'amour est Dieu. Dieu est amour, c'est l'affirmation de la révélation. On ne dit pas « l'amour est en Dieu ». C'est beaucoup plus fort, Dieu est amour. C'est que l'amour n'est parfaitement amour qu'en Dieu. C'est ça que ça veut dire. Tandis que quand vous dites l'amour est en Dieu, ça veut dire que l'amour en soi, il est en Dieu. L'amour est Dieu. Ce qui est d'ailleurs aussi exact, c'est sûr. Mais c'est plus exact de dire Dieu est amour.
Qualitatif. La voie directe, c'est
l'imitation de l'être et de l'être parfait qui est l'homme ont été faits par Aristote. Et avant de prendre Aristote, je vérifie est-ce que c'est bien. Je m'aperçois que, en effet, ces 10 prédicaments sont exhaustifs. Si vous voyez que c'est pas exhaustif, vous me le direz. Mais c'est une description exhaustive de toutes les déterminations. En me servant beaucoup du langage, mais au sens langage aristotélicien, c'est-à-dire au langage qui exprime ma connaissance de la réalité, qui implique toujours le concept que l'intelligence saisit à partir de la réalité. Il y a les 10 prédicaments. Je vous ai déjà dit, il faut les avoir par cœur, les 10 prédicaments. C'est facile du reste, il faut les avoir par rapport à vous. Les 10 prédicaments, c'est une propédeutique métaphysique. Voilà quelles sont les déterminations de l'être. Or, toutes ces déterminations, sauf les deux premières, sauf la première, puisqu'il n'y a pas deux premières, le sujet n'est pas une détermination. Le sujet est ce qui est capable de recevoir toutes les autres déterminations. Mais ce qui n'est attribué à personne d'autre, donc ce n'est pas une attribution. Alors prédicament veut dire attribué. C'est la même chose, hein. Catégorie ou prédicament. Il y a un mot latin, il y a un mot grec. Alors si vous êtes grec, prenez catégorie. Si vous êtes latin, prenez prédicament. Et comprenez qu'on dépasse le latin et le grec pour rejoindre la réalité qui n'est ni latine. L'homme existe avant la culture. Et la culture provient de l'homme. L'homme existe avant le langage. Et le langage provient de l'homme. Or, selon les déterminations que je vois qu'il y a une détermination essentielle et toutes les autres sont secondaires. Même la relation. C'est la plus débile. Donc, de la relation, rien ne naît. Et tout s'achève. C'est très curieux. Alors que la substance est source de toutes les autres déterminations. D'une certaine manière. Et je vois qu'il y a deux aspects corrélatifs. Aristote appelle substance première, substance seconde. La substance première, c'est Pierre, le sujet de toutes les déterminations. Et la détermine, l'attribution essentielle, principale, c'est homme. Substance seconde. Donc, substance première, substance seconde. Oh. la première détermination, puisqu'il est essentiellement capable de recevoir toutes les autres déterminations. Il n'est donc pas première dans l'ordre des déterminations. Il est même radicalement indéterminé. C'est la grande objection que font tous les philosophes à la scolastique décadente. Vous identifiez la substance au sujet. Or, le sujet, c'est un X. Vous ne le connaissez pas. Tout est attribué au sujet. Il est aussi bien homme que intelligent, que capable d'aimer, que relatif à un autre. Donc, ce n'est pas lui qui est la substance, la détermination première de ce qui est en tant qu'être. Donc, ni substance première, ni substance seconde ne sont la substance. Mais ils sont corrélatifs. Ils sont essentiels. L'un et l'autre. Je ne peux pas les abstraire. Ils s'appellent mutuellement. Ça, c'est facile à comprendre. Et c'est très important de voir ce côté corrélatif, ce côté relatif et corrélatif de homme, substance seconde, et pierre, substance première. C'est intéressant, du reste, que des deux côtés, je vois le mot substance. Je pourrais me demander pourquoi. C'est parce que homme a une primauté dans l'ordre des déterminations abstraites et pierre a une primauté dans l'ordre des déterminations individuelles et dans l'ordre de l'exister. Pierre existe avant tous les autres. Vous voyez, là où on s'abuserait dans le monde moderne de dire que Pierre, c'est la substance existentielle. Et homme est la substance essentielle. À mesure où la philosophie s'est orientée vers le point de vue essentiel et existentiel, vous voyez que c'est assez gros. Puisque, en disant ça, je reste devant Pierre. dans l'ordre de l'être selon la forme. C'est là où je découvre, en étant en présence, substance première, substance seconde, que je découvre l'au-delà. plus déterminé. Et ça vient premier. Et c'est la substance, principe, selon la forme de ce qui est, qui est saisi. Mais qui est saisi par l'intelligence. Elle est indivisible. Elle est invisible et indivisible. Je peux ensuite comprendre parallèlement aux autres choses qui sont à mon avis.